Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Débat démocratie en progrès. Pour l'émission de ce mois d'août, nous allons débattre du thème « L'émergence des champions nationaux, la Côte d'Ivoire est-elle bien ou mal partie ?» Pour débattre de ce thème, je suis en compagnie de plusieurs personnalités du monde des affaires. Il s'agit de M. Haïdara Mamadou, il est le président du Cercle libéral. Je suis en compagnie de M. Désiré Konan, il est le directeur de l'appui au secteur privé et de la promotion du secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie. Je suis également en compagnie de M. Soro Doté, il est le président national des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics. Je suis également en compagnie de M. Kwasi Adolphe Kwadio, il est entrepreneur en hydraulique. Je suis avec M. Sylvain Coupoin, il est le conseiller spécial du président de la Fédération ivoirienne des PME, PMI. Merci aussi à tous nos invités d'avoir répondu favorablement à notre appel pour débattre de la problématique des champions nationaux dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Quel avantage pour ces types d'acteurs? Quels sont les dividendes l'économie du pays peut tirer avec la présence de ces acteurs? C'est ce que nous allons voir autour de ce débat avec ces personnalités.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Comme je le disais tantôt, le thème qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de notre débat, c'est l'émergence des champions nationaux. La Côte d'Ivoire est-elle bien ou mal partie? Alors, première question, messieurs, c'est de vous demander, un champion national, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que renferme ce type de concept dans le monde économique, dans le monde industriel? Je vais commencer avec vous, monsieur Haïdara Mamadou. Qu'est-ce que le citoyen lambda doit attendre par champion national?
Merci, chers auditeurs. Merci, monsieur le journaliste. C'est une question pertinente. Ou même, tout à l'heure, la notion de champion national peut prêter à équivoque. Et là, on a parlé de localisation géographique. Est-ce que c'est une entreprise qui est basée dans le pays spécifiquement qui peut représenter une entreprise nationale? Ou bien est-ce que c'est la composition du capital? Ou bien c'est la nationalité des détenteurs du capital? Bon, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais en gros, ce que nous pouvons comprendre dans le champion national, c'est une entreprise, d'abord géographiquement, elle est localisée. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la détention, la composition du capital au niveau des détenteurs du capital. Et bien sûr, plus elle est nationale, plus elle peut recueillir le caractère d'une entreprise nationale, d'abord. Donc, il faut d'abord être une entreprise nationale avant de pouvoir compétir pour la compétition, pour être un champion. Donc, on parle bien des entreprises qui sont détenues, dont le capital est détenu par des locaux. Voilà un peu ce que nous comprenons.
Bien. Monsieur Désiré Konan de la Chambre de commerce et d'industrie, vous qui travaillez avec le secteur privé dans le cadre donc, de votre institution, pourquoi on parle d'idée de champion? Parce que quand on parle de champion, il y a l'idée de compétition. Compétition avec qui et pourquoi?
Sur quels critères? Je vous remercie. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui nous a mandaté pour un débat aussi important que celui de la question des champions nationaux. La question des champions nationaux est une préoccupation de longue date du secteur privé. Et aujourd'hui, l'État a exprimé une volonté politique réelle de mettre en place, d'accompagner les champions nationaux dans notre pays. Cela participe d'une démarche. On a une économie qui est prospère depuis plus d'une dizaine d'années. Beaucoup de réformes ont été mises en œuvre par le gouvernement. On connaît tous les taux de croissance, hein. On a une économie qui est assez attractive aujourd'hui au sein de l'UMOA et même à l'échelle du monde, on a des performances économiques remarquables. Mais dans tout cela, nous avons des investisseurs qui viennent, mais ils se posent la question de savoir quelle est la part du secteur privé national dans tout ça. Au moment où aujourd'hui on parle de souveraineté économique, est-ce que le secteur privé national lui-même contribue réellement à la création de la richesse dans notre pays? Je pense que c'est ça qui est le défi, c'est ça qui est l'enjeu. Donc pour nous, un champion national est un champion leader dans son secteur d'activité. Et le secteur national, ce n'est pas seulement les grandes entreprises. Il faut tenir compte aussi des PME, les PME à fort potentiel. Il faut qu'au niveau de l'actionnariat, l'actionnariat soit majoritairement ivoirien. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ces deux éléments. Et il faut que l'entreprise soit compétitive. La compétitivité, à deux aspects. Compétitivité au niveau local, voilà, sur le marché ivoirien. Mais il faut que l'entreprise ait une capacité à aller glaner des marchés sur les autres marchés, les marchés régionaux et internationaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a mis en place la ZLECAF. Mais la ZLECAF, il faut que nos entreprises se préparent aussi à aller à conquérir des marchés. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, quand on parle des champions nationaux, quand on parle des leaders africains, même ouest-africains en termes d'entreprises, les entreprises ivoiriennes ne sont pas aussi bien représentées qu'on l'aurait souhaité. Je préfère parler comme ça. Moi, je pense que c'est cette vision-là qui anime et l'État et le secteur privé, parce qu'il faut reconnaître que c'est les deux entités, le gouvernement et le secteur privé, qui ensemble veulent mettre en place le dispositif des champions nationaux.
Monsieur Sorodoté, vous qui êtes donc président du secteur du bâtiment en ce qui concerne donc les PME, PMI, comment vous expliquez que la Côte d'Ivoire, qui a un fort potentiel économique, et que ces acteurs-là, industriels, nationaux, sont sous-représentés, si je m'en tiens bien entendu, au propos de M. Conan Narcisse. Première économie de l'UEMOA, mais en termes de représentativité des entreprises concurrentes, on ne sent pas ces entreprises postuler, demander des marchés à l'extérieur, présentes, organisées, comme on verrait d'autres entreprises des pays moins nantis que la Côte d'Ivoire, présentes sur le sol ivoirien.
Mais vous savez que pour parler des champions nationaux, c'est d'abord une volonté politique de l'État lui-même. C'est une entreprise que l'État a choisie pour accompagner et regarder que ses actions, au point de vue de chiffres d'affaires, sont sérieux dans son travail, et que l'État voit qu'en l'accompagnant, qu'il peut être une entreprise productrice à valeur ajoutée. Et donc, les champions nationaux, que vous ne pouvez pas aller de l'avant sans la contribution de l'État, alors qui a constaté, qui a vu que vous remplissez les critères d'éligibilité pour qu'on puisse vous accompagner et pouvoir être une entreprise qui produit au point de vue de ta production en qualité et aussi de ta prestation de service. Voilà comment le champion national arrive à être détecté et partout le monde. Et quand vous avez tous ces atouts déjà, dites-vous que vous êtes déjà lancé et cette entreprise, de toute façon sérieuse, c'est un constat que l'État fait pour pouvoir choisir que parmi tant d'autres. Donc c'est une entreprise d'abord, quand on dit un champion national, c'est une entreprise que l'État a choisie lui-même. Alors que pour essayer de voir est-ce que cette entreprise peut aller de l'avant et pouvoir nous représenter au niveau national et compétir avec les entreprises étrangères.
Monsieur Sylvain Koumoué, vous qui êtes conseiller du président de la Fédération ivoirienne des PME et FIPME, cette problématique vous concerne à plus d'un point. La question que je posais à Monsieur Sorodoté, à savoir comment on peut travailler sur la question des champions nationaux pour qu'on ait de plus en plus ces entreprises-là représentées beaucoup plus visiblement, j'allais dire, dans le monde des affaires.
Merci beaucoup, Ben. Je voudrais vous remercier pour cette invitation et profiter de cela pour saluer le président de la fédération, Dr. Ouattara Kanigi, qui a bien voulu que nous participions effectivement à cette émission pour pouvoir donner notre position sur la question du champion national ou des champions nationaux. Ce que je voudrais dire, au risque peut-être de répéter les autres, le principe du champion national est d'abord une volonté politique. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le secteur privé existe. Et quand vous recollez la chose en termes de développement au PND de l'État, je l'ai dit à plusieurs reprises qu'en fait, quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a une bonne vision, une bonne lecture des programmes de développement de l'État. Donc le principe de la création devait être fondé sur les enjeux économiques de l'État, de sorte que vous puissiez inscrire votre entreprise dans un schéma de pérennisation. Et donc, selon l'expertise que vous voulez mettre sur la place publique, selon le schéma de développement, il faut comprendre que la promotion de l'acteur économique doit partir de la volonté politique.
parce que ce schéma s'inscrit dans un cadre de développement sectoriel. Comment aider l'acteur sectoriel dans les priorités à la limite des programmes de développement, aider l'acteur sectoriel à prendre d'abord de façon nationale sa part de marché et ensuite voir comment aller à la conquête des autres marchés, des marchés au niveau sous-régional comme au niveau international. Parce que une chose est claire, un opérateur économique à un moment donné doit être l'ambassadeur de l'État. Et comme l'a dit tantôt le ministre Thiam, il faut comprendre que le principe du champion national crée la confiance entre les acteurs, les investisseurs étrangers et les acteurs nationaux. Parce que quand vous avez des acteurs qui sont suffisamment performants, qui sont compétitifs et qui sont susceptibles de vendre leurs expertises en dehors de votre périmètre, du périmètre national je veux dire, il faut comprendre que c'est... Ces acteurs-là créent une image suffisamment positive et donc ils rassurent ces investisseurs de sorte que dans les schémas de partenariat, les gens n'ont pas de doute. Et donc, je le dis, il faut que c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises par rapport à la question, mais je pense que c'est insuffisant. Il faut y aller comme Dangote au Nigeria. C'est vrai ici, on a un ou deux champions nationaux parce que la réalité des choses... C'est vrai, l'homme a ses performances, l'entreprise a ses objectifs, mais tant que l'entreprise n'a pas l'appui de l'État, tant que l'État n'a pas fait les concessions qu'il faut pour dire, mettons tel ou tel autre, selon peut-être certains critères, sur la place nationale comme la place internationale, de sorte à le booster pour qu'il aille loin vendre les potentialités de notre pays dans un secteur donné. Vous comprenez que les gens vont y aller, mais c'est vraiment une aventure qui, des fois, est quelque peu hasardeuse. Parce que si vous avez votre État comme appui par derrière, vous voyez que les gens, ils vont vous mettre dans des schémas, mais tout le monde va faire attention parce qu'on sait que vous avez votre État derrière vous. Donc ça aussi, c'est très important.
Monsieur l'ambassadeur Aïdara, pour cette problématique, c'est vrai qu'on a parlé du champion national qui était un opérateur, un acteur économique. On a parlé, j'ai vu que tout le monde revient sur l'appui, sur le travail que l'État doit faire pour créer. Or, on sait que entreprendre, c'est libre en principe. Alors, où on dit il faut être libre pour entreprendre, eux on demande que l'État fasse.
Bien.
Est-ce que
très bien.
Comment on peut expliquer, comment
alors,
on peut comprendre cela?
Je comprends bien la problématique d'abord. Je suis là en tant que président du cercle libéral. C'est un sujet sur lequel nous avons, en tant que think tank, qui est celui de réflexion libérale, qui réagit sur les questions libérales. En 2015, nous avons organisé une table ronde sur la question, réunie autour de la table des entrepreneurs. Et les différents comportements de nos entreprises étaient représentés. Aussi, la partie État, qui était représentée à son plus haut niveau, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon, qui avait parrainé cette table ronde. Alors, la problématique qui est sortie, effectivement, c'est la problématique de l'intervention de l'État. Alors, pourquoi on parle de l'intervention de l'État? Parce que quand vous regardez l'ensemble des transactions, je veux dire, commerciales ou bien des transactions économiques entre l'entreprise et ses clients, l'État... En lui seul, il a le plus grand portefeuille. C'est le donneur d'ordre par excellence. Quand vous regardez le PND, vous voyez que c'est 60 milliards. Vous allez représenter que ça est de loin significatif par rapport au secteur marchand libre. Donc l'État qui a le marché, tout part du marché. Quand on dit tout part du marché, et l'État qui a le marché, c'est l'État qui peut, de façon discrétionnaire, décider d'affecter son marché à l'ensemble des opérateurs économiques. C'est de ce pouvoir que les entreprises demandent que l'État, de façon discrétionnaire, fasse une affectation de ce pouvoir de marché au secteur privé, surtout national, pour pouvoir avoir un retour en termes de compétences, en termes de comment on appelle, développement de potentiel. Donc le marché. L'État aussi peut avoir le capital, parce que l'État, d'une manière ou d'une autre, a un fort potentiel en termes de levée des capitaux concessionnels, pour pouvoir permettre aux entreprises, une fois qu'elles ont le marché, de distribuer. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Il y a des modèles qui ont été faits. Les États-Unis qui sont le marché, une économie la plus libérale possible. Mais les États-Unis ont pris à un moment donné ce qu'ils appellent le Small and Business Administration Act, qui permettait de pouvoir allouer 30% systématiquement du marché public à des petites entreprises. C'était affecté. Pourtant, c'est une économie libérale. Et on a le cas du Nigeria. Donc partout, par rapport aux enjeux, l'État a pris ses responsabilités pour pouvoir faire des affectations d'office aux entreprises. Donc, il y a le marché, c'est ce que les entreprises demandaient, et qu'il y a une affectation. Alors, si, depuis, la question revient, est-ce que cette affectation, je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'État, dédiées, on va affecter 30% aux PME, mais est-ce que cela est implémenté de façon correcte, de façon... Peut-être que les entrepreneurs ou bien les représentants peuvent nous dire, je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises, quel est l'impact une fois que vous avez fini le problème du marché et le problème du financement. Le problème du financement, comment on le règle? Je pense pour moi aussi que la responsabilité de l'État est interpellée sur la question du financement parce que l'État dispose des meilleurs mécanismes en termes de levée des fonds. Il y a la Bourse des valeurs qui est une entité plus ou moins publique, mais qui est un régulateur de marché, qui a aussi quand même des pouvoirs de générer des capitaux. Mais imaginez-vous aujourd'hui que nous avons, dans la taille des entreprises, 80% de la taille de nos entreprises sont des PME. Tout part du marché. Et celui qui est détenteur de l'or du marché, de façon considérable, c'est l'État.
Merci beaucoup, Monsieur Aïdara, Président Aïdara, donc, pour ces explications. Nous allons donner la parole à Monsieur Désiré Conan, qui est donc de la Chambre de commerce et d'industrie, sur cette problématique. On a vu que M. Aïdara a proposé, on va dire, certainement des mesures incitatives qui peuvent être accordées aux entreprises nationales pour pouvoir bénéficier d'une marge de marché public et à faire appel aussi à l'État pour pouvoir accompagner. Est-ce que sur le plan local ici, M. Désiré Conan, vous qui travaillez donc avec le secteur privé, est-ce que nous, dans notre législation, dans notre fonctionnement des entreprises, est-ce qu'il y a des parts de marché qui sont réservées aux entreprises nationales pour l'avènement donc, des champions nationaux?
Je vous remercie. Avant de répondre à cette question, qui est une question directe, je vais y répondre. Je voulais parler d'abord, c'est vrai que l'État a une part importante, c'est une volonté politique, mais aussi, il faut voir la responsabilité de l'ensemble des acteurs. On a cet État, on a les organisations du secteur privé, chambres consulaires et autres, qui sont des organisations d'appui au secteur privé. Et puis, on a les entreprises elles-mêmes. Ça dit que l'État, lui, va mettre en place le cadre. Mais comme je vous ai indiqué, depuis quelques années, l'État travaille à mettre en place un cadre pour améliorer la performance des entreprises. On a des agences comme Côte d'Ivoire, PME qui ont été créées, qui font des appuis. On a Côte d'Ivoire Export, on a le fonds de garantie. On a beaucoup d'instruments qui ont été mis en place par l'État. Aujourd'hui, on a le programme Pépite. Ça veut dire que tout ça traduit cette volonté politique d'État d'accompagner le secteur privé. Ce sont des programmes concrets. Mm-hmm. Nous, acteurs du secteur privé, qui sommes autour de cette table, on participe à ces différents dispositifs. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, une fois que l'État a mis ce cadre, nous, dans le cadre des champions nationaux, il faut faire la sélection. Donc, nous, ce que nous estimons, il faut que ce soit une sélection transparente et assise sur des critères qui sont connus de tous et très clairs. Donc, une fois qu'il y a cette transparence, il y a la notion de redevabilité qui va avec. Parce que les champions nationaux seront des entreprises en mission. Pour le compte de l'État, comme d'autres le disaient ici, ils sont un peu comme des ambassadeurs. Et dans leur mission, ils doivent tirer, quand c'est des grandes entreprises, des petites, pour bien entendu faire bien fonctionner l'écosystème. Parce que le problème, c'est de créer une dynamique économique. Par exemple, dans certaines régions, les champions nationaux peuvent servir comme levier pour créer une sorte d'équilibre au niveau de l'implantation régionale, en plus du corps d'investissement qui est créé. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le tissu économique de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en termes d'implantation d'entreprises, on a pratiquement plus de nos statistiques, plus de 88% des entreprises qui sont installées dans la région d'Abidjan et sa banlieue. Mais il faut corriger cela si on veut les régler les problèmes, bien entendu, de développement de nos régions. Donc ça, ce sont des leviers qu'on peut utiliser. Donc l'État, lui, va mettre en place le cadre. Mais nous, acteurs du secteur privé, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons former nos opérateurs. C'est vrai qu'on voit les choses, parfois, excusez-moi, un peu simplement. Quand une entreprise doit exporter sur des marchés, mais il y a des règles. Si nos entreprises ne sont pas imprégnées de ces règles, elles ont beau avoir l'argent, on a beau leur mettre les moyens à disposition, mais il faut qu'elles soient imprégnées de ces règles. Donc ça, c'est le rôle des acteurs, CGCI, FIPME, Chambre de commerce, de faire des formations, de préparer nos entreprises. Et nous nous félicitons, dernièrement, il y a eu en place, nous, Chambre de commerce, il y a des formations, des ateliers que nous organisons, Mais aussi, il y en a d'autres. La direction du commerce extérieur vient de mettre en place ce qu'on appelle le Hub Empire Sport, où nous sommes, nous aussi, acteurs. Donc, nous, acteurs du secteur privé, on a ce rôle-là. Deuxième rôle, une entreprise, quand elle se crée, c'est pour faire des chiffres d'affaires. Donc, nous, on va mettre en place des plateformes pour permettre à cette entreprise de faire des affaires avec les autres dans le monde entier. Donc, nous, on a aussi notre rôle. Mais les entreprises, elles-mêmes aussi. Parce que, comme on le disait, les entreprises, elles sont privées. Donc, les managers eux-mêmes doivent être aux commandes de leurs entreprises. Parce qu'in fine, quand on a mis tous les moyens à votre disposition dans le cadre de ces championnats nationaux, c'est vous qui devez diriger votre entreprise. Donc, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir diriger ces entreprises. Il y a des mécanismes qui existent. Chaque année, quand le budget de l'État est voté, il y a des lignes de financement pour les PME. Et nous, chambre, nous travaillons avec la DMP pour vulgariser tous ces marchés-là au profit des PME. C'est une réalité. Et puis, on a la question des 20% ou 30% maintenant réservés aux PME. C'est vrai que là, ça devient une question de comptabilité. Travail, oui. Voilà, je voulais m'arrêter là.
D'accord. Nous allons donner la parole à M. Kouassi Adolphe Kouadio, qui est entrepreneur en hydraulique, qui va nous expliquer son expérience. Parce que ce sont des petites entreprises, des entreprises qui n'ont pas de grosse taille, ce n'est pas des multinationales, mais qui sont sur le terrain, qui conduisent des travaux et qui ont parfois des expériences terrain. Avec lui, on va écouter son expérience terrain. Vous nous expliquez comment vous arrivez à avoir des marchés et quand vous avez vos marchés, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le retour sur l'investissement? Vos factures sont payées? Est-ce que vous pouvez continuer? La fiscalité, l'environnement des affaires dans le cadre de votre travail, expliquez-nous.
Merci d'avoir suscité ce débat et merci de me donner la parole. Effectivement, c'est le sujet qui est débattu ici est un sujet très intéressant. Et même, disons que ça tourne autour de l'une des grosses préoccupations que nous avons en tant que PME innovante. Nous pensons que les conditions en Côte d'Ivoire pour l'émergence de champions nationaux sont très, très, très difficiles. Nous pensons que l'économie ivoirienne, c'est une opinion personnelle, est structurée autour des grosses entreprises, pour le succès des grosses entreprises et pour une économie de rente. Peut-être que le législateur n'a pas beaucoup connaissance des réalités des PME qui opèrent dans le domaine de la technologie, comme celle qui est la mienne, à savoir que quand on regarde la loi des finances, les pratiques, disons, les dispositions au niveau des marchés publics et les conditions créditrices et débitrices dans les banques, les modalités, les dispositions de respect ou de non-respect des modalités de paiement des factures, si vous n'êtes pas d'entrée de jeu très, très, très outillé financièrement dans l'activité économique, ben, vous déchantez très vite. Je précise ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand l'État a un besoin d'usine de traitement d'eau potable, par exemple, ben, l'État va faire appel à des multinationales. On propose le marché dans une offre de façon ouverte. On fait venir des multinationales. Certaines multinationales même sont déjà championnes dans les pays de l'OCDE. Et vous êtes en compétition avec ces multinationales. Vous partez, par exemple, avec un crédit, un montage financier bancaire à un taux d'intérêt de 12% l'an. La multinationale vient avec des conditions de 1%, ou voire parfois 0%. Vous vous engagez dans le projet. Et le projet, pour des cas de force majeure, le projet peut se dérouler sur plusieurs années. Vous imaginez que vous mettez l'argent d'une banque à 12% dans un projet qui dure 3 ans. Vous êtes à 36% de frais financiers pendant que votre concurrent, qui est en général, disons, venu d'un pays de l'OCDE, lui, il est à 3% ou 0%. Au bout de 3 ans, même quand votre facture est payée, vous n'avez plus de ressources pour rembourser ni votre banque, ni vos fournisseurs. Vous imaginez la difficulté en termes de perte de crédit que cela peut susciter. Je termine aussi en disant que si on parle de champion, donc de championnat, c'est que comme c'est une compétition, si à la base vous n'avez pas le même environnement macroéconomique, il est clair que l'opérateur ivoirien sera confiné dans un rôle de sous-traitant. Et le rôle de sous-traitant est le rôle le plus ingrat dans l'activité économique. Parce que votre argent passe entre les mains de votre camarade qui est entrepreneur comme vous. Même quand vous signez des contrats pour être payé en 5 jours ou en 20 jours, ça c'est ce que votre contrat de sous-traitance dira. Ben, on peut oublier de vous payer pendant des années. Mais on ne crée pas une entreprise pour envoyer ses clients tout le temps au tribunal. Et donc, pour terminer, j'aimerais proposer dans les domaines qui sont à très fort potentiel scientifique ou dans des domaines où on voit que l'opérateur ivoirien a la capacité technique de réaliser même les projets les plus complexes, il ne faudrait pas que les critères financiers priment. Sinon, en faisant primer les critères financiers, on confine systématiquement l'opérateur ivoirien qui va faire de toutes les façons le travail. On le confine à un rôle de sous-traitant et on l'emmène à la faillite.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Adolphe Kwadio, pour cette explication qui est quand même une expérience terrain que vous avez partagée avec l'ensemble des experts ici. Je pense qu'on tentera plus ou moins de voir quelle solution, vers quelle solution on peut partir pour régler ce type de questions. Je crois que M. Sylvain Copoin de la Fédération des PME et PMI avait demandé la parole justement sur cette question. Rapidement, qu'est-ce que vous voulez
ajouter ? Oui, sur la question, je suis très heureux que M. Kwadio ait partagé cette expérience parce que très souvent, on aime les grands débats. Ce que les gens vivent sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, comme il a si bien indiqué, la question de la commande publique reste la question majeure. La question de l'accès au marché national même reste une question encore hypothétique. Donc pour moi, la question du champion national, pour moi, ce n'est pas les critères de formation, ce n'est pas les critères de renforcement de capacité. Ça, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le principe, les gens ont de l'expertise. C'est vrai, le championnat national est une question de compétitivité. Mais il y a des gens qui sortent toujours par le haut, qui arrive à sortir la tête de l'eau. Et le principe voudrait que ces personnes-là soient captées dans un secteur donné, qu'il soit prioritaire ou pas. Quel est le modèle d'encadrement qu'on met en place pour que l'État puisse les accompagner? Parce que si vous créez votre entreprise et que vous comptez sur l'amitié que vous avez avec M. Ben Diakité, mais écoutez, Ben Diakité peut changer de poste. Vous, votre expertise, vous la gardez pour vous, même si vous devez vivre les mêmes conditions. Mais le principe, c'est comment l'État lui-même décèle ces acteurs-là, sectoriels, de sorte qu'on dise, en termes de leadership, comment on les accompagne. Et donc, la question de la compétitivité, moi, pour moi, c'est une question qui sème une sorte de confusion au niveau du secteur privé. Parce qu'à des moments donnés, on a tendance à croire que nous, qui sommes les acteurs, nous parlons trop. Mais le principe voudrait qu'on essaye de structurer notre économie. Le plan Phoenix, comme il a dit, par rapport au schéma américain, pour nous, c'était un schéma salvateur. Ça devrait venir régler un certain nombre de problèmes. Donc, pour moi, toutes ces questions, peut-être d'approche, de renforcement de capacité, c'est bien. Mais il faut le raccoler à la question de notre propre environnement, à la question de l'attribution des marchés, à la question même de la surface financière que nous avons dans la sous-région comme chez nous. J'ai dit plusieurs fois que l'argent est trop cher. Vous ne pouvez pas, à 12%, vous ne pouvez pas tirer les gens vers le haut. Et je suis prêt à prendre les gens au défi que quand vous êtes banquier, comme nous l'a dit Atidjari, le président d'Atidjari Wafa, quand il arrive dans une zone du Maroc, il adapte son mode de financement aux priorités locales. Je ne suis pas sûr que nous avons cette possibilité. Les champions nationaux se construisent. Comment on décèle leurs expertises? Comment on leur accorde par rapport à leur expertise, un marché donné dans le plan, le programme national de développement, parce que c'est l'État qui est le plus gros pourvoyeur de marché. Et donc, dans ce schéma-là, on se dit, ce n'est pas les expertises qui manquent en Côte d'Ivoire. Okay, donc, merci. On décèle cela, et puis on les accompagne, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan des marchés. Vous allez voir que cela, ils vont tirer même les PME qui sont informelles vers le formel.
D'accord. Monsieur se redoutait des PMI. Alors, vous avez entendu vos deux confrères poser vraiment la problématique du financement comme un gros défi, l'accès au marché national, nonobstant la problématique de la formation, de la compétitivité des entreprises locales pour le championnat national, si je peux m'exprimer comme cela. Alors, vous êtes dans ce secteur. L'État, c'est le gros pourvoyeur des marchés. C'est-à-dire que 80% des marchés à exécuter sont détenus par l'État. Et c'est l'État qui a le marché et le plus gros budget. Donc, et ce marché-là dit, quand c'est exécuté, plus de 80 à 90%, selon les chiffres même, sont exécutés par des grosses entreprises. Et quand on dit grosses entreprises, vous remarquez que la plupart de ces entreprises-là ne sont pas forcément des entreprises à capitaux nationaux. Donc ce sont des entreprises qui ont des financements qui viennent d'ailleurs. Comment on peut renverser la tendance?
Je voudrais vous remercier. Vous savez que c'est facile de critiquer, mais ce n'est pas facile de faire bien. L'État de Côte d'Ivoire a des belles lois et elle a aussi mis des structures en place pour aider le secteur privé, ce qui ne se fait pas. J'ai écouté mon frère et ami de la Chambre de commerce et d'industrie qui dit on forme les gens, il ne s'agit pas de former. L'État de Côte d'Ivoire a mis des lois, mais quand vous formez là, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous donner des exemples. Lorsque vous prenez le code des marchés publics de Côte d'Ivoire, quand on dit 30% est réservé aux artisans, 30% est réservé aux PME, quelles sont les décisions qui ont été prises par ces chambres consulaires, eux, ces chambres qui sont subventionnées, qui ont des dieux de l'État pour faire appliquer ces lois. Ce n'est pas la peine de dire que l'État a dit 30% aux PME. Il l'a écrit, le code de marché, lui, c'est une loi. Mm-hmm. Mais quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour dire que, voilà, on dit dans chaque mairie, quand tu fais ton budget, tu dois mettre 30% des marchés qui sont réservés aux artisans, 30% des marchés que les PME doivent bénéficier. Quelles sont les dispositions que ces chambres consulaires et ces structures de l'État ont mis en place de telle sorte que si ces ordonnateurs des travaux, ils vont mettre ces marchés en compétition que les PME puissent gagner. L'État a fait tout ce qu'il faut pour que le secteur privé puisse avancer. Mais on parle de formation. Vous allez prendre les mêmes textes que l'État a dit de faire. La formation. Faites la formation. Mais quand on finit de faire la formation, vous faites quoi? Alors que c'est vous qui avez le pouvoir. L'État a votre voix. C'est votre voix que l'État écoute. C'est vous qui parlez à l'État. Et que vous venez former des gens, voilà, on dit de faire comme ça et c'est terminé. On les laisse à la merci de la verdict populaire. Je vous donne un exemple. Voilà le marché, dans le code des marchés publics, ces 30% réservés aux PME existent. Mais ils sont allés encore plus loin pour pouvoir aider même les entreprises à se créer. Où on leur dit, si tu as créé ton entreprise à moins de 18 mois, tu peux soumissionner à un appel d'offres de milliards sans qu'on ne te demande, alors que des AB, des attestations de bonne exécution. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on va se rebattre sur la qualité du personnel qui est là. L'État va encore, il dit, si vous êtes en groupement, parce que mon frère vient de parler de sous-traitance, bon, je reviens sur cette situation d'ailleurs, l'État dit que si vous allez en groupement, il y a ce qu'on appelle le droit de marge de la préférence. Voilà des avantages qui sont mis dans le code des marchés publics qu'on refuse d'appliquer et on dit l'État dit. Dans ce paragraphe déjà de droit de la marge de préférence, qu'est-ce que le code des marchés publics dit? Si vous allez en groupement, il y a un mandateur solidaire et vous êtes des co-traitants avec lui. Alors, si on s'en va participer à l'appel d'offres et que vous êtes plus cher que les autres entreprises, on doit pouvoir vous éliminer. Mais puisque vous êtes un groupement, la loi dit, si c'est un marché public, il faut faire la préférence, c'est 15% qu'il faut faire pour faire la déduction sur le montant. Quand ça y est là, et puis vous allez faire la comparaison. Et si vous devenez le moins disant, déjà, on vous donne le marché. C'est un avantage que l'État a mis sur place. Dans les conseils régionaux et les mairies, c'est 5%. Alors, vous le faites et on fait la déduction et on essaie de voir, vous êtes un groupement, on doit pouvoir vous donner que votre marché. Et si on vous le donne, parce que vous allez travailler, vous êtes un groupement, c'est la facture que vous avez présentée comme chère, l'État dit que tu vas facturer ça. Mais ce sont des avantages qui sont mis pour faire avancer. Mais ces chambres consulaires-là ont mis quel système en place pour protéger les entreprises? Ça ne se fait pas. Tout dernièrement, à Boaké, il y a un appel d'offres. Ce problème, moi je leur ai dit, si jamais l'entreprise n'a pas pu avoir son travail, je vais poser ma plainte, je vais saisir l'ARNP pour que les travaux soient arrêtés. Parce qu'on ne peut pas mettre des lois pour aider et puis des gens refusent d'appliquer. Et on se sent heureux dans ça. J'ai toujours dit, toi qui as créé ton entreprise là, tu es gérant de ton entreprise. Mais vous êtes un groupement au niveau de l'État. L'État est dedans. Les papiers que toi tu cèdes là, c'est l'État qui te donne. Si tu n'as pas donné, tu n'avances pas. Et en retour, ces papiers là, tu vas payer. Si tu n'as pas payé que tes impôts, tu vas fonctionner.
D'accord. Merci beaucoup, M. Sorodoté. Maintenant, je vais donner la parole à M. Conan Désiré, qui est de la Chambre de commerce et d'industrie. On a vu que vous avez été interpellé, hein, vous, en tant qu'institution, pour dire c'est vrai que l'État a pris des mesures, mais comment on peut faire appliquer ces mesures-là réellement sur le terrain? Parce que parfois, au regard des marchés, ce n'est pas toujours respecté selon ce que les uns et les autres ont dit. Et parfois même aussi avec les banques. Vous avez vu le cas de M. Kwasi Adolphe qui avait dit quand même les taux de crédit, le taux d'accès à l'argent au financement était très très difficile dans ce cas-là. Donc par rapport à ces préoccupations posées, quelle solution?
Ben, je vous remercie. Et comme vous dites, nous avons été interpellés au niveau de la Chambre de commerce. Moi, je ne vais pas faire de polémique, mais la seule chose que je veux dire, il faut que chacun soit dans son rôle. Nous, Chambre de commerce, nous avons une mission d'appui et d'accompagnement. Nous, on vous apporte l'information pour dire que l'État, il y a des marchés, il y a des lignes de financement qui ont été prévues pour les opérateurs économiques. Venez, vous allez en prendre connaissance. Mais une fois que vous en avez pris connaissance, nous, la deuxième chose qu'on peut faire, nous, c'est de vous aider à vous former, renforcer vos capacités pour que vous les maîtrisiez pour avoir des marchés publics. Après, c'est l'entreprise elle-même qui est en face des personnes, des institutions qui peuvent attribuer les marchés. Donc ça, je voulais le dire. Maintenant, deuxième point, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des organes. Il y a la DMP qui attribue les marchés, il y a l'ARNP, l'Autorité nationale des régulations de marchés publics qui est là. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien entendu, il faut aller vers cet organe-là pour, et Dieu seul sait que, il y a des décisions qui sont rendues qui permettent donc de, bien entendu, de répondre aux désirs de ces personnes qui se plaignent. Troisième chose, on a des cadres de dialogue. Donc, quand il y a quelque chose qui est prouvé et documenté, nous le portons à M. Sorodoté lui-même d'écrire à la Chambre, de dire à la Chambre, voilà ce que j'ai vécu avec des preuves à l'appui. Nous le portons. Moi, je voudrais qu'on recentre le débat sur la question des champions nationaux. Parce que les champions nationaux, c'est quelque chose qui est en train de se construire, qui n'est pas encore terminé. Donc ici, nous sommes là pour dire comment on fait pour que ça marche. Quels sont les leviers que l'État peut utiliser? La question du levier des marchés publics, c'est un levier très important. Ça, on est d'accord là-dessus, que c'est un levier que l'État pourrait utiliser. C'est l'État lui-même qui va décider de quel levier utiliser. Mais ça fait partie de propositions, par exemple, que nous faisons. Le levier même du paiement de la dette intérieure. Parce que s'il y a un problème qu'on a sur l'échiquier, c'est la question du paiement de la dette intérieure. Nous sommes tous d'accord que la plupart des PME, en tout cas une bonne frange des PME, a pour client l'État. Donc la question de la dette intérieure peut poser un problème. Il y a des efforts qui sont faits. Mais je pense qu'il peut y avoir quelques mesures pour faciliter la tâche aux différents championnats nationaux qui auraient été identifiés dans le cadre du paiement de la dette intérieure. Ça, c'est un levier. Il y a le levier de la fiscalité. Mais ça, c'est dans les prérogatives de l'État. Chaque année, il y a une annexe fiscale. Donc, l'État, libre à l'État de dire oui pour les championnats nationaux que nous, on aurait identifiés comme entreprises à fort potentiel qu'on doit soutenir. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis, il y a plusieurs autres leviers, la question de la garantie souveraine. Je sais que vous avez cité un opérateur lorsqu'on a fait le forum économique du TAC à Ouagadougou, le traité d'amitié ivoiro-burkinabé. Il y a des opérateurs ivoiriens qui ont soulevé la question. Mais peut-être qu'en Côte d'Ivoire, on pourrait l'appliquer aussi. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je le dis, ça peut être quelque chose, mais ça, c'est l'État qui décide. Donc, moi, je voudrais qu'on parle plutôt des instruments pour faire avancer le débat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les championnats nationaux soient une réalité en Côte d'Ivoire? Regardez par exemple, permettez-moi, sur les marchés étrangers. Aujourd'hui, on sait que le Nigeria est une destination importante, 200 millions de consommateurs, mais nous avons au niveau des entreprises ivoiriennes des difficultés à aller sur ce marché. C'est une réalité, on en a connaissance depuis quelques années, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chambres consulaires, le président de la chambre,
lors d'une mission au Ghana avec les acteurs, ont suscité une visite ici du patron des douanes ivoiriennes pour rencontrer le secteur privé ivoirien, pour échanger sur la question, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut lever les freins. On vient de recevoir une étude du Benet, diligentée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Donc voilà des actions qu'on peut mener pour voir où sont les obstacles et comment lever les obstacles pour que les entreprises aient un meilleur accès à ces marchés. Parce que quand on parle des championnats nationaux, les championnats nationaux, c'est des entreprises qui vont avoir pignon sur rue chez nous, qui vont avoir des marchés, mais qui devront aller. Parce que ce dont il est question, des entreprises qui devront aller compétir. Aujourd'hui, où on a la Zlé, Cafo, on a les grands marchés pour aller compétir là-bas. D'accord. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Non, maintenant, un autre élément que je voulais ajouter, c'est la question du financement. C'est vrai que vous êtes venu sur la question des taux d'intérêt. On est tous d'accord que le loyer de l'argent est cher. C'est une difficulté. Mais comme M. Copouin l'a dit, on est dans un espace communautaire. Mais je pense que quand les entreprises elles-mêmes ont de bonnes capacités, quand les entreprises elles-mêmes ont de bons pouvoirs de négociation avec leurs banquiers, elles ont des leviers qu'elles peuvent utiliser. C'est un sentiment personnel, c'est un avis personnel que je voulais donner. Mais nous, en tant que chambre, qu'est-ce qu'on fait? On a le Fonds de solidarité africain, qui est un organisme qui accompagne aussi le développement de nos États. On a appelé les opérateurs. Venez vulgariser, voilà tous les dispositifs qu'on met, de garanties qu'on met en place à la disponibilité des opérateurs pour leur permettre d'acquérir du financement. On s'est rendu compte d'une difficulté. Une fois qu'on a fait la vulgarisation, on a 100, 150 entreprises qui vont venir. Mais quand on dit « envoyez les dossiers », on a un problème. Nous, on a fait le constat. Ce même constat, on l'a vécu un peu lorsqu'on a eu les fonds Covid. Donc nous, on dit, il y a un travail à faire d'appui à la structuration de nos entreprises. Donc quand on parle de formation, on a beau dire, on peut refuser la formation, mais l'une des bases, les clés du succès, c'est la formation.
Merci beaucoup, M. Cordat. Je pense que c'est vraiment entendu et que ce sont des propositions qui vont s'accompagner. On va donner la parole à M. Aïdara Mamadou, qui avait demandé la parole depuis un certain moment, pour apporter son éclairage sur les problèmes qui ont été soulevés par les différents acteurs sur la question de l'accès au marché public, sur la question des critères, sur la question des formations, sur la question de l'application des textes de loi, parce que M. Sorodoto a dit, oui, l'État a tout fait, l'État a mis des dispositions, mais le problème, c'est que sur le terrain, c'est pas toujours appliqué, et les mécanismes de suivi ne sont pas toujours là.
Le débat, il est clair. Hein. Moi, j'ai organisé cette table ronde en 2015, et d'ici là, j'ai dû partir en poste à Washington. Je suis revenu, je pense que je suis au même point de constat. Quelque chose n'a pas évolué, c'est vraiment déprimant. Hein. Ça, j'avoue que c'est une question de responsabilité. Et quand vous regardez un peu sur le tissu économique, un peu tout le boom qu'on vit, et voir que le secteur privé n'a pas une part prépondérante dans ce tissu-là, il y a de quoi se poser la question. Est-ce que les lois qu'on a prises sont suffisamment bien appliquées? Il ne faut pas se voiler la face. Parce que si vous voyez la face, ça va vous revenir au visage. Est-ce que l'État même a la bonne compréhension de comment appliquer les lois qu'elles prennent? Peut-être de bonne foi. Est-ce qu'au niveau de l'État même, nous-mêmes, on n'a pas un problème de compétences? Il y a des modèles qui existent en Afrique, qui ont marché. Il a tout à l'heure parlé du modèle du Nigeria. Au Nigeria, nous avons vu que sous un certain leadership, il y a des décisions d'autorité qui ont été prises pour favoriser la création des entreprises nationales d'envergure. Dans le secteur des télécoms, vous avez Glo. Dans le secteur du pétrole, qui est quand même une des potentialités, une ressource importante au Nigeria, d'autorité, l'entreprise nationale a été créée. Et elle, quitte à elle, de redistribuer, à détirer, comme vous avez dit, les autres le tissu. Au niveau du secteur bancaire, des entreprises comme, et je n'ai pas fait de publicité, vous avez des banques nigériennes ici aujourd'hui qui ont fini tellement d'alimenter leurs marchés qui viennent aussi sur notre marché aujourd'hui. Elles sont tellement puissantes, elles sont exportées aujourd'hui. Alors, donc, la problématique, nous-mêmes, en tant qu'autorité publique, on a un problème de compréhension de l'environnement du business. Il faut assumer. On ne peut pas tourner, continuer à tourner en rond, prendre des lois, prendre des lois. Aujourd'hui, quand vous regardez, comment on contourne l'accès des marchés? Les entreprises sont là. Moi, j'ai été entrepreneur. Je suis venu dans le secteur public. L'accès au marché est contourné par le problème de l'apport du financement. Quand vous avez des gros marchés aujourd'hui, on dit, bon, écoutez, si vous avez apporté le financement, on va vous attribuer le marché. En lieu et place des appels d'offres ou bien des attributions de facto, c'est la mobilisation des ressources. Donc, qui peut aller mobiliser des ressources, des 100 milliards, des 50 milliards, une fois que vous avez apporté le financement? Parce que l'État vous dit, moi, je n'ai pas de financement.
Et moi, j'ai le marché, mais je n'ai pas de préfinancement. Si vous avez le préfinancement, moi, je vous attribue. Donc, ces grosses entreprises, ils vont lever des fonds. Le marché du financement n'a pas de nationalité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'État, il est de la responsabilité de l'État de pouvoir aider à la structuration d'un marché financier. On a une bourse de valeur qui est ici, qui permet de lever des fonds. On a le secteur bancaire. La Côte d'Ivoire contrôle 40% du flux monétaire de la sous-région. C'est quand même un poids prépondérant. Aujourd'hui, quand moi j'étais encore dans l'entreprise privée, et j'arrivais à financer mes marchés parce qu'il y avait une banque ivoirienne. J'arrivais à financer tous mes marchés parce qu'en face, j'avais un interlocuteur national qui pouvait mieux comprendre la problématique. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans le secteur financier, quelles sont les entreprises? Et c'est pour ça que je pense que l'État est en train de trouver un début de solution. Donc ces entreprises nationales, l'État doit continuer à les sensibiliser, à les éduquer, à les sensibiliser, à les renforcer pour qu'ils aient des fonds propres nécessaires de pouvoir accompagner nos entreprises nationales. Sinon, on va vous faire le débat. On va vous donner un marché. Vous n'avez pas les moyens de financement. Et comme il a dit, vous allez payer 36% qui ne représentent pas votre marge. Donc, vous allez travailler à perte. Et puis, demain, vous allez déposer les clés sous le paillasson.
Merci beaucoup sur ces différents éclairages. Mes auditeurs, vous êtes à l'écoute des programmes de la radio de la paix. Nous sommes à l'émission « Démocratie en progrès ». Et nous allons poursuivre cette émission. Mais j'allais vous demander, parce qu'on a tous parlé, on est tous convenus qu'il faut revoir l'environnement, il faut l'appui étatique, également il faut aussi la compétence, il faut la formation des gens. Et ça, je pense que c'est des choses aussi sur lesquelles on est censé, parce qu'un marché, c'est une compétition. Mais vous avez dit, le plus important, c'est qu'il faut des mesures incitatives de l'État. C'est l'État qui crée, c'est l'État qui doit accompagner. Alors, sur ces critères-là, parce qu'on a parlé de critères, et généralement, on n'a pas dit les critères pour un championnat national. C'est quoi, M. Sorodoté? Ça peut être quoi? Comment ça peut se présenter pour ne pas que ça soit des éléphants blancs? Monsieur Sylvain Copon, on va aller rapidement avec vous.
Merci beaucoup.
Pour l'émergence de ces
voilà,
champions.
Je voudrais préciser une chose, que à partir de l'instant où on renforce les capacités et qu'on est convaincu que l'expertise de l'autre est suffisamment développée, il faut l'accompagner. Il faut passer à une autre étape. Et donc, dans ce schéma de progrès consécutif à tout ce qu'on fait à la base, il faut comprendre que si on veut accompagner un opérateur économique, il est important de comprendre que non seulement il faut rassurer ses relations avec la banque, il a fallu cette histoire de Covid pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, l'argent peut être prêté à moins de 3 ou 2%. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette économie qui est fondée totalement, en grande majorité, qui est une économie à prépondérance informelle? Ça, tout le monde le sait, parce que tout est parti de la subsistance, avant d'enclencher le schéma de développement. Mais aujourd'hui, il y a un élément fondamental qu'il faut prendre en compte. La notion de l'informel oblige les acteurs que nous sommes, qu'on soit chambre consulaire ou bien fêtière indiquée, on est obligé d'adapter les choses, d'aider, d'accompagner l'économie dans son ensemble. Donc, la question, c'est qu'on ne peut pas exclure la question du renforcement de capacité. Parce qu'on essaie de faire l'inventaire de notre développement, on se rend compte que la question du renforcement de capacité est importante. Mais on ne va pas en faire une exclusivité. J'ai proposé à une institution de la plage, je disais, mais quand vous voulez encadrer les gens là, prenez au moins 50, accompagnez-les, et puis après vous les évaluez, vous savez que bon, ils sont arrivés à une autre étape, maintenant l'autre étape, si c'est un problème de financement, vous continuez de les accompagner. Mais on ne peut pas avoir une approche globale et rester sur place pour dire, on accompagne les gens ne veulent pas venir. Il y a peut-être un autre facteur que je vais vous indiquer, permettez-moi, c'est que en fait, on a un environnement qui est encore difficile. Chez nous, on dit, quand vous êtes une PME, que vous travaillez d'office avec l'État, vous jetez la clé sous le paillasson. C'est malheureux, c'est dommage, on est obligé de le dire ainsi, que moi je puisse créer mon entreprise, comme je l'ai dit tantôt, parce que je connais l'ambassadeur. Non, je compte sur l'État. Je prends le programme de développement de l'État, je regarde, je dis mon expertise, je peux la faire valoir ici. Donc c'est ma part de marché, je fais une lecture de déjà ceux qui sont là, comment ils fonctionnent, et puis j'innove, je viens. Mais quand je viens et que je ne suis pas payé, parce qu'on me met dans un schéma de paiement de 90 jours qui dure 2 ans, 3 ans, pendant que, comme l'a dit Monsieur Kouassi, la banque ne m'attend pas. Ses intérêts augmentent de 12%, je passe à 36% ou même plus, parce que je n'ai pas payé, je suis même victime de pénalités. Qu'est-ce que je fais? C'est en cela qu'on le dit. On a même, par rapport au marché, on a demandé un observatoire qui n'a jamais pu être mis en place. Donc, comme l'a dit M. Sorodoté, les lois sont très, très belles. Le législateur a déjà réfléchi sur tout. Mais comment on les applique? Donc, l'une des raisons, on n'exclut pas la question du renforcement de capacité, ce qui est tout à fait normal. On n'exclut pas la question du financement, mais comment on accompagne ce financement? Parce que si je prends un emprunt que je ne peux pas rembourser et que après je suis obligé de me cacher même de ma propre banque, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas mis mon banquier en confiance. Sinon, il ne m'aurait pas prêté l'argent.
Monsieur Bonadé, on a dit qu'on a des grandes entreprises et on a les PME à fort potentiel. En termes de critères, bien entendu, c'est à la capacité de cette entreprise, pour les grandes, à aller avoir un potentiel pour leur permettre d'aller sur les marchés extérieurs. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est le niveau de l'emploi. Parce que quand l'État, lui, veut mettre en place les championnats nationaux, aujourd'hui, on a un problème de création d'emplois, il faut insérer. Donc, il faut que les entreprises aient un potentiel pour pouvoir créer des emplois. Donc, ça, c'est un élément. Forcément, à un certain moment, parce que c'est des rencontres bipartites entre l'État et le secteur privé. L'État a son intérêt, le secteur privé aussi a son intérêt. Et puis, il faut regarder aussi, bien entendu, le potentiel de croissance par rapport au secteur d'activité. Aujourd'hui, l'État est d'identifier un certain nombre de secteurs. C'est l'agro-industrie. Ça, c'est l'une des priorités des priorités. Aujourd'hui, on a le digital. On a le digital parce que rien ne va aujourd'hui sans le digital. On a le secteur énergétique. Aujourd'hui, le secteur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, quand on parle des mix énergétiques, voilà des secteurs à fort potentiel. Et puis, on a la grande distribution. Parce que ça, on a parlé. Mais la grande distribution, on se rend compte que en dehors de nos femmes, nos braves dames qui sont sur les marchés et autres, on est presque quasiment absent au niveau de la grande distribution. Et ça, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Donc, dans ce secteur-là, je pense qu'on devait travailler à construire, à mettre en place des véritables champions ivoiriens dans ce secteur. Et puis le secteur financier, monsieur l'a dit, monsieur l'ambassadeur l'a dit, on est tout à fait d'accord. Voilà, on a des jeunes loups aujourd'hui qui, dans ce secteur, sont en train d'émerger. Voilà, je ne vais pas les citer, peut-être pour ne pas faire de la publicité, comme nous sommes sur une radio, mais il faut dire que ces nouvelles entreprises qui émergent, ivoiriennes qui émergent dans le secteur financier, il faut pouvoir les accompagner. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur la question, et puis la capacité d'innovation.
Merci à vous, chers invités. Le thème qui nous a réunis donc ce matin était l'émergence des champions nationaux. La Côte d'Ivoire est-elle bien ou mal partie? Et pour débattre de ce thème, je t'ai en compagnie de M. Aïdara Amamadou. Il est le président du Cercle libéral. J'étais également en compagnie de M. Désiré Konan. Il est le directeur de l'appui et de la promotion du secteur privé au sein donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. J'étais en compagnie de M. Sorodoté, il est le président national des PME, PMI dans le secteur du bâtiment. J'étais également en compagnie de M. Kwasi Kwadio Adolf, il est entrepreneur en hydraulique. Et j'étais également en compagnie de M. Sylvain Copoin, il est conseiller spécial du président de la Fédération ivoirienne des PME, PMI. Merci messieurs pour votre expertise, merci d'avoir répondu à notre invitation et puis on va vous souhaiter un bon retour tout en vous indiquant que nos portes vous sont ouvertes pour pouvoir échanger sur d'autres thématiques que vous voudrez bien partager avec nos auditeurs. Merci beaucoup.
Ben Diakité.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.